matinée. Il est 10h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour. Entre 44 et 64 personnes ont péri dans les intempéries qui frappent le Japon depuis plusieurs jours. Et les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le pays ont fait aussi de très nombreux disparus. Le niveau d'eau tombé est 3 fois supérieur à celui d'un mois de juillet normal. Des dizaines de maisons ont été détruites ou sont entièrement noyées. Le Premier ministre Shinzo Abe parle de course contre la montre alors que plus de 2 millions de personnes ont été évacuées et que 54 000 secouristes ont été mobilisés. L'opération de sauvetage des 12 adolescents et de leur entraîneur de football a enfin commencé ce matin en Thaïlande. Les sauveteurs ont fait évacuer le site de la grotte dans laquelle ils sont pris au piège depuis plus de 2 semaines afin de faire de la place pour aider les victimes. Leur extraction délicate est rendue désormais possible par l'amélioration des conditions météo, mais il faudra attendre encore ce soir pour voir réapparaître le premier garçon. Vers un certain apaisement dans la région nantaise, après 4 nuits consécutives d'émeutes, la tension est retombée hier soir avec moins d'incidents signalés et seulement 7 voitures incendiées. Ces événements ont eu lieu à la suite de la mort d'un jeune homme lors d'un contrôle routier qui a mal tourné. Le CRS, auteur du coup de feu mortel, a été mis en examen. La famille de la victime se constituera partie civile dès demain. Le deuxième individu mis en cause dans l'agression d'un couple de policiers en dehors de leur service mercredi en Seine-et-Marne à Otis a été placé en garde à vue hier. Il est âgé de 24 ans et serait le frère cadet du premier suspect interpellé. Le dernier carré des rescapés du mondial de football est maintenant connu. L'Angleterre, qui a battu la Suède 2-0 hier, affrontera mercredi en demi-finale les Croates, vainqueurs des Russes. Après un match nul laborieux, 2 partout, des prolongations et la terrible épreuve des tirs au but 4-3. L'autre demi se jouera mardi et opposera Françaises et Belges. Et puis le Tour de France a commencé hier par une balade en Vendée et c'est le Colombien Fernando Gaviria qui a signé la première victoire à Fontenay-le-Comte, alors que le favori, le Britannique Chris Froome, chutait dans le final. Très bonne journée à tous.
RBE, vivez votre région.
RVE 103.7, il est 10h02, c'était les titres de l'actualité. On fait un point météo avec un ciel qui sera aujourd'hui ensoleillé et dégagé. On nous prévoit des températures dans la journée de 29 à 30 degrés, demain lundi, 31 degrés. Et puis tout au long de la semaine, on devrait avoir du beau temps, profitons-en.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Effectivement, bonjour à toutes et à tous. Hein. Quelle actu sportive ce matin? On va naturellement continuer à commenter tous les matchs que l'on suit à travers donc toutes les semaines hein, sur le Mondial de foot. L'équipe de France est en demi-finale. On en parlera beaucoup. On parlera aussi un peu vélo hein, parce que c'était l'actu de ces derniers jours dans notre région. Et pour tout cela, eh ben, j'ai notre fameuse bande de drilles hein, et de passionnés. À commencer par José Vega. Salut José, ça va?
Bonjour à tous. Bonjour Philippe. Oui, ça va très bien. Bon, l'équipe de France est en demi-finale. On n'y croyait pas au départ, hein, contrairement à mon ami Fifi qui est en face, qui a toujours cru. Lors des phases de poule, c'est vrai qu'ils avaient produit un jeu qui n'était pas assez efficace. Oui, les autres aussi. Mais bon, c'est vrai qu'on a tapé au premier tour, on a tapé sur l'équipe de France. Mais bon, quand on a commencé à voir les huitièmes et les quarts, là, on commence vraiment à y croire.
Allez, lui aussi, maintenant, supporte l'équipe de France. Toujours. Notre équipe a été éliminée, c'est l'Espagne. Salut Pierre, ça va?
Salut Philippe, ça va? Bonjour ouais. À tous, très heureux, très content. Ouais. Non, là, c'est la France avant l'Espagne.
Bien sûr.
Alors, quand même.
Heureusement, je vais saluer aussi Arnaud. Ça va Arnaud?
Bah écoutez, ça va très bien Philippe. Il reste plus que 4 équipes dans la Coupe du Monde. 4 équipes européennes, ouais, on va pas le dire trop fort parce que visiblement, ça porte la poisse depuis le début de la compétition. Mais je crois que l'équipe de France est favorite maintenant, donc... Oui. 2 matchs à gagner, on n'est plus là pour faire de la figuration, on est là pour gagner la Coupe du Monde et maintenant ça semble au clair.
Très bien. Allez, Lucky.
Bonjour, c'est Lucky. Alors, Lucky, oui, ça va bien. Ouais.
L'équipe de France, ça va bien.
Comme un Français.
Bah oui. Hein.
Et puis, l'équipe de France est là. Le champion, je pense, sera le victorieux de France-Belgique.
Très bien. On salue Benjamin qui était sur le vélo la semaine dernière. Tu nous en parles un peu. Ça va, Benjamin?
Tout va bien. Ouais. On est en demi-finale. Voilà, Deschamps est peut-être en train d'écrire l'histoire 20 ans après. Mmh. Après être champion du monde joueur, peut-être en tant que sélectionneur.
Stéphane, salut.
Bonjour, effectivement. Moi,
20 ans après, l'histoire va se renouveler.
Voilà, j'espère, on espère tous. Ouais. Bien sûr, donc tout va bien, effectivement. Quand on aime le foot, tout va bien, forcément.
Bibi.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Ouais.
Oui, moi je. Enfin voilà, je suis content, mais je le savais, donc voilà. Non, mais très heureux. Voilà, et on attend les Belges avec impatience.
Voilà,
les favoris, c'est pas nous.
Ah non, on reste favoris quand même.
Non, c'est les Belges.
Non.
On leur laisse.
Bon, On en reparlera, voilà. Donc on va revenir sur tous les matchs qu'on a, dont on avait parlé, enfin sur, dont on n'avait pas parlé depuis la semaine dernière. On va commencer par le vélo parce que c'était un des directs de la semaine dernière, une des actus donc de la semaine dernière. Dans notre région, c'était le championnat de France professionnel sur route. On avait fait gagner quelques places donc à nos auditeurs en VIP. Benjamin, c'était sympa ce championnat de France. Belle course, c'est un beau parcours.
Alors un beau parcours, 12 tours pour plus de 240 km sous la chaleur, 35 degrés au milieu de course. Et en fait une course qui s'est dessinée, c'était très sélectif avec la chaleur, une échappée classique et un peloton qui est jamais revenu, des contre-attaquants dans le dernier tour et puis une victoire d'Anthony Roux, sa première. Il ne sera pas sur le Tour de France, il n'a pas été sélectionné par
Ah, c'est dommage, Mario. Un champion de France qui n'est pas sur le Tour, c'est
voilà,
dommage.
C'est déjà la deuxième fois en quelques années. Un beau podium avec une deuxième place pour Anthony Turgis, le régional. L'un des deux frères Turgis. Et puis la troisième place pour vraiment pour moi l'homme qui était le plus fort pourtant sur cette fin de championnat, Julien Alaphilippe.
Oui, alors il y avait beaucoup de monde au lendemain de cette victoire de l'équipe de France.
Voilà, une belle ferveur, ça parlait beaucoup football. Et puis, ouais, bien sûr. Et puis un beau parcours, une belle organisation. Voilà, en marche par contre, on peut y marquer par la non-sélection de Froome. Et finalement, l'UCI qui décide de blanchir Froome. Alors, c'est vrai.
Ouais, bon, on en reparlera tout à l'heure. On va commencer. Vous avez ramené donc l'interview du champion de France, ni plus ni moins, Anthony Roux, qu'on écoute dès maintenant.
Allez-y.
Après tant d'années comme ça, franchement, j'ai pris le départ des France avec des chronos avec de la pression positive, mais pas négative, parce que je me suis dit que à France en carrière, c'était derrière moi, comme maintenant, c'était plus possible de gagner ces champions de France, j'avais laissé passer ma chance. Et aujourd'hui, franchement, c'était une journée parfaite, je me sentais vraiment bien, et c'était une journée exceptionnelle.
On a l'impression que vous y croyez à peine.
Non, franchement, quand je vois les derniers champions de France qu'il y a, des mecs comme Arnaud Demar, Arthur Vichot, porter ça sur des courses pro-tour et tout, je me rends pas compte, je me vois vraiment pas prendre le départ d'une course pro-tour la prochaine fois avec ce maillot-là, c'est magnifique. Donc il y a trop de choses à côté qui symbolisent ce maillot, j'en revoyais vraiment pas quoi.
Est-ce que vous pouvez nous parler des 500 derniers mètres de la bataille finale?
Ouais, quand on est revenu sur Rudy, je lui ai dit de se mettre à la planche, je lui ai dit faut pas que ça rentre derrière. Et franchement, j'étais quand même confiant pour le sprint, quoi. J'avais peur d'Alaphilippe, mais je me suis dit allez, c'est des sprints, c'est des trucs que t'aimes bien, ça frotte pas, vous êtes un petit groupe, ça va jouer vraiment la pédale. Et j'ai vraiment crié sur Rudy pour qu'il aille vraiment jusqu'au bout du bout. Et quand Anthony Turgis a lancé très très loin, il a vraiment giclé fort et ça a fait un sprint qui était très très long, mais j'ai donné tout ce que j'avais, je me suis fait mal comme jamais. Je pensais que ça allait rentrer à mon pédalier, mais en fait, j'y croyais pas. Je me dis, la ligne est arrivée, et je me dis, mais Alaphilippe, il passe quand, quoi. Et voilà, j'avais fait aussi un shot braqué qui était génial. J'avais mis un coup de 56 je savais qu'il y avait moyen de faire aussi une différence dans la petite descente là-bas, mais j'ai essayé, mais ça l'a pas fait. Et voilà, le sprint, j'avais tout à droite et je suis allé vraiment avec la force. C'est génial quoi, c'est un truc de fou de gagner comme ça quoi.
Mais d'ailleurs vous ne levez même pas les bras, c'est-à-dire vous ne croyez pas quoi.
Ouais, et puis je suis à bout, je peux pas lever, si je lève les bras je tombe, donc c'est des sprints de fou, c'est des sprints de plus de 30 secondes, c'est du lactique, c'est du bout, donc lever les bras c'est qu'on a encore la pêche, franchement quand j'ai passé la ligne, j'en pouvais plus quoi.
Ouais, la petite question rabat-joie, parce qu'il n'y a pas du coup sur le Tour de France, on le sait, c'est-à-dire pas de maillot tricolore pour le grand public sur le Tour de France.
Non mais c'est pas grave et moi demain je suis sur la plage à Bord-les-Mimosa et je vais manger une bonne glace avec mon choupi et je leur dis d'ailleurs bonjour parce que j'ai une femme qui est exceptionnelle et des enfants aussi et ça me donne la force donc là franchement je me voyais pas aussi aller autour et un mois de juillet à la maison comme ça va être exceptionnel et j'ai hâte que le service course m'envoie ce maillot pour pouvoir rouler avec à l'entraînement, ça c'est clair.
Et c'est aussi une grosse histoire de confiance, on a vu.
Voilà, en tout cas, beaucoup d'émotions dans la voix d'Anthony Roux pour ce titre de champion de France.
Bah voilà, en plus c'est un premier titre avec déjà la carrière qu'il a derrière lui. Bon, pour lui, on l'a vu, hein, il est assez émotif et voilà, et il sait que derrière, il est soutenu par sa famille. Et puis, on a vu encore la grosse force du groupe FDJ sur ce championnat.
Allez, l'interview maintenant avec celui qui a été donc le héros de ce championnat de France, c'est Julien Alaphilippe. On y va.
C'est vrai que départ ce championnat de France, vous savez que ça allait être quand même assez difficile pour moi d'aller chercher le titre, mais je peux quand même très motivé pour faire une belle course. Surtout dans le final et voilà, j'ai gagné le maximum. J'ai aucun regret parce que j'ai tenté tout ce que je pouvais faire dans le final et ça a plutôt bien marché. Après au sprint, voilà, je suis tombé face à des coureurs plus rapides que moi. Donc, en tant que
Ouais,
quand j'ai produit mon effort dans le final, j'ai eu la chance de retomber sur Rémi Cavagna qui a fait un gros numéro, qui était déjà devant, donc il m'a aidé à reboucher un petit trou sur des coureurs qui étaient déjà devant, et puis ensuite après voilà, je savais qu'on était à... On se rapprochait de l'arrivée, qu'il fallait que je donne tout ce que j'avais. Quand j'ai repris Rudy, je voyais Anthony qui se rapprochait aussi derrière. J'étais quand même dans une bonne situation face à deux coureurs de FDJ. J'ai dû garder mon sang-froid, pas m'énerver. Et au final, c'est tout simplement le plus fort du groupe qui gagne. Hein, même si j'ai fait un bel effort et que je suis bien revenu, ça arrive au sprint, il fallait être un sprinter pour gagner.
Vous allez dire que là, c'est fini le championnat de France, on va prouver très rapidement dans le Tour de France. Vous montrez aussi à vos concurrents éventuels que vous êtes là et que la première semaine du Tour peut vous faire.
J'ai beaucoup travaillé là sur un gros stage de préparation. Le championnat de France, je sais que c'est une course importante, mais je n'ai pas l'objectif principal. Mais j'avais à cœur quand même de faire une belle performance. Donc je suis satisfait de mon podium, c'est un honneur de terminer sur mon premier podium championnat de France professionnel. Et voilà, la condition est bonne, j'ai hâte.
Voilà donc pour Julien Alaphilippe. Il faut quand même rappeler qu'à chaque fois qu'on interviewe les coureurs, naturellement c'est avec nos confrères, l'ensemble de nos confrères journalistes, on a reconnu la voix de Daniel Mangias, hein, donc en fond.
Oui, c'est ça. Voilà. Il est toujours présent.
Voilà, c'est pour rappeler dans quel contexte on travaille sur une course de vélo. Un consultant maintenant qui travaille pour Eurosport.
Voilà, Steve Chenel, qui a longtemps été dans le peloton et qui a été aussi médaillé en cyclocross, médaillé mondial et qui est consultant pour Eurosport. Mmh. Pour lui demander en fait ses impressions sur la course quelques heures avant le début de la course.
Eh ben on va écouter un des collègues, Arnaud. Allez on y va, Steve Chenel.
En fait voilà, par rapport à cette course, ce championnat de France sur ce circuit de Montagellier, cette chaleur, quelles sont vos impressions, ce que pour vous la course, comment va se dérouler?
Ben, la course est déjà très très longue, 250 km, c'est un championnat de France, il y a des équipes qui sont très très bien représentées avec pas moins de 17 coureurs il me semble, pour la FDJ notamment, ou encore la formation Fortuné au Samsic. Il y a cette chaleur qui va être de plus en plus pesante. Je pense qu'il va y avoir de la viande cramée comme on dit dans les deux derniers tours, une fois qu'on aura passé les 200 km. Ça va être une course d'usure, très usante, où il faudra attendre je pense la dernière heure pour voir des mouvements parce que avant... ce sera beaucoup trop de cadenassés à mon avis.
Y a-t-il une possibilité que la course arrive avec un homme échappé?
Un homme seul, ouais, c'est possible, tout est possible. Après, on a vu hier sur les courses amateurs et élite dames que tous les scénarios étaient envisageables. Oui. D'ailleurs, les deux champions de France sont arrivés tout seuls. Donc ça montre qu'il y a une possibilité. Après, ça court différemment chez les pros. Après, très honnêtement, quand on voit les formations comme elles sont organisées, comme c'est cadenassé, comme c'est tactiquement très juste, je pense qu'il devrait y avoir, à mon sens, un petit groupe dans les 20 derniers kilomètres qui va se détacher. Et ensuite, suivant la bagarre, ça peut être un homme seul, un trio ou une dizaine de personnes au sprint, voire plus. Vraiment, il n'y a rien qui est écrit sur le scénario.
Arnaud Démare, quand même grand favori pour s'enchaîner lui-même.
Bien sûr, oui. Non, Arnaud Démare, c'est évidemment le favori. Il passe très très bien l'Ibos. Il a une équipe surtout qui est tout acquis à sa cause. Mais attention, parce que justement, quand on a cette telle étiquette, on n'a pas trop le droit à l'erreur. On peut laisser des cartouches à droite à gauche. Il y a des coureurs qui sont isolés, je pense à Julien Tomarki par exemple pour Roubaix, je pense à Julien Alaphilippe qui seront beaucoup moins attendus et qui auront une seule cartouche à mettre. Et s'ils la mettent bien, on a vu hier avec Audianic, ça a fonctionné, ils peuvent faire mouche, mais clairement, oui, sur le papier, si on ne veut pas gagner d'argent, il faut jouer Arnaud Démare
sur la petite côte.
Exactement.
D'accord. Merci pour la petite.
Voilà, merci en tout cas effectivement pour cette petite interview. On va finir avec Cyril Guimard, donc sélectionneur de l'équipe de France.
Sélectionneur masculine, voilà, qui sortait d'une conférence de presse. Mm-hmm. Et voilà, on lui demande ses impressions sur cette course.
Allez, Cyril Guimard.
Je vais avoir arrêté là parce que putain, il y a une chaleur de la merde.
Ouais, c'est chaud. Donc justement, une belle chaleur par rapport à la course d'aujourd'hui. Comment vous voyez la course se dérouler?
La chaleur est un élément qui sera déterminant. Car un, il y a des coureurs qui sauront mieux la chaleur que d'autres, qui sont plus à l'aise. Personne n'est jamais véritablement à l'aise, mais là supporte mieux donc que d'autres concurrents. Ça peut être un élément important sur les coups de 14-15 heures dans la phase finale de course. Mais ces conditions vont durcir la course, c'est une chose. Il n'y a peut-être pas besoin de ça d'ailleurs, le parcours par lui-même était déjà très, très sélectif, très tourmenté, avec beaucoup de relances, avec une partie urbaine aussi qui complique parce que ça fait beaucoup de relances, donc qui complique le positionnement des coureurs dans le peloton. Et tout ça contribue aussi à durcir la course.
Et là aujourd'hui, bon, on ressort quand même quelques favoris, mais la chaleur en fait elle peut tout niveler. Et puis on n'est pas à l'abri d'une surprise de quelqu'un qui sorte sur les deux derniers tours.
Mais c'est très bien, à l'abri des surprises, il faut souhaiter des surprises de temps en temps.
Effectivement.
Dans la mesure où la course est ouverte, s'il y a une belle bagarre, de toute façon, même si c'est un nom qu'on n'attendait pas, ce sera obligatoirement un grand coureur.
D'accord. Un petit mot juste à quelques jours du Tour de France. On attend beaucoup des coureurs français. Comment vous jugez-vous la forme d'ensemble?
Tous les ans, on attend beaucoup des Français, des fois avec plus ou moins de légitimité, mais c'est vrai que les performances de cette année, d'une part, de nos leaders français et de leur implication sur les tours passés font que oui, on a des possibilités une nouvelle fois de podium. On va éviter de dire de victoire.
D'accord. Et justement, une dernière question que je voulais vous poser par rapport à la victoire de Pierre Latour. On a l'impression qu'il a pris un sacré niveau là sur le contre-la-montre. Ça va être un équipier de luxe pour Romain Bardet et lui aura peut-être des chances à faire valoir dans ce tour-là ou peut-être les années qui arrivent.
Oui, dans la configuration de l'équipe AG2R, la mondiale, il y a bien sûr Romain Bardet qui est confirmé. L'arrivée à ce niveau-là de Pierre Latour avec ses qualités de rouleur, c'est un atout supplémentaire pour Romain, mais c'est aussi un leader de rechange.
Voilà.
Et c'est toujours important dans certaines circonstances de course, même de se retrouver quelquefois dans des mouvements qui peuvent mettre en difficulté les adversaires ou peut-être même tout simplement ne pas avoir le temps de réaction opportun et de se retrouver avec la tour placée de façon très, très intéressante au général.
D'accord.
Voilà pour le bilan complet donc de ces championnats de France fait par Cyril Guimard.
Voilà. On peut rappeler aussi qu'au contre-la-montre masculin, c'est
Pierre-André Latour.
C'est Pierre Latour qui s'impose devant Tony Galopin. Tel Galopin, lequel qui est tombé en début de championnat le dimanche.
Et Guimard, qu'on peut entendre donc pendant ces trois semaines chez nos amis d'RMC.
Exactement.
Voilà, très bien. Allez, le Tour de France, ça a commencé ce week-end. C'était une belle fête hier donc en Vendée.
Ouais, du côté de Noirmoutier avec une étape en ligne et puis. On a été servi. Alors malgré que il s'est pas passé grand chose en début d'étape, une échappée classique, il y a eu dans les derniers kilomètres la chute du très critiqué Christopher Froome qui perd déjà 50 secondes sur les principaux favoris. Quintana, mais bon après on se dit que
ça pèsera pas beaucoup à l'arrivée, ça pèsera pas beaucoup.
À voir.
Non. Puis c'est des étapes classiques de début de Tour de France où souvent on laisse des échappées se développer et puis les sprinters sont pris à quelques kilomètres. Tiens, on a justement notre ami Simon Violent qui est de Bullion qui est en Vendée. Simon, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Alors cette journée donc sur la Vendée.
Sur la Vendée. Hier, j'ai entendu avant moi, le résumé, une belle étape.
Oui.
Une super, super organisation, on a été frappé. Et là, je suis sur la route donc de la deuxième étape, qui, contrairement à hier, on n'a pas de crainte à avoir concernant le vent. Le parcours est bien abrité.
Oui.
Le début de l'étape, un peu vallonné, sans plus, permettra, mais il y a une côte au départ. au début qui permettra peut-être à des échappés de sortir. Mmh. Après, bon, les routes sont plus sinueuses. Il faudra éviter les chutes. Le revêtement est granuleux. Oui. Et à la fin, les routes sont plus larges. L'arrivée sera sûrement un sprint massif. Moi, c'est ce que je pense. Sur l'étape, je suis actuellement avec du soleil et très peu de vent. Donc,
Oui, ce sont des étapes classiques de départ du Tour de France.
Ah, hein, oui.
Avec
oui,
des arrivées au sprint, hein, Simon.
Oui, arriver au sprint, toujours des arrivées très, très dangereuses. Parce que c'est, tu sais que j'ai toujours peur pour les coureurs. Ça frotte beaucoup. Hein. Mmh. Ça frotte beaucoup dans les derniers kilomètres.
Oui, alors on va rappeler que la Vendée, je crois que c'est la quatrième ou cinquième fois qu'ils reçoivent le Tour. On avait d'ailleurs fait une émission là-bas en 2011, à l'occasion d'un précédent départ du Tour de France.
Oui, absolument. Mais la Vendée, c'est un pays de vélo. Mmh. Même si c'est plat.
Oui.
Le pays de Bernaudot, de Vauclair, enfin... C'est très connu, quoi. Alors donc, ils ont fait évidemment
une grande promotion, quoi. Voilà.
Ils ont été hyper applaudis, évidemment, dans leur fief, quoi.
Bon, Simon, pour faire le lien avec le foot, la Vendée, c'est aussi les Herbiers, donc en pleine Coupe du Monde.
Oui, absolument, avec la Coupe du Monde. Bon, qui se passe très bien pour nous, Français.
Mmh. Il y a beaucoup de drapeaux bleu-blanc-rouge, là, sur le bord des routes, là, sur le Tour.
Il y a beaucoup de drapeaux bleu-blanc-rouge. Il y a beaucoup, donc, de supporters de football qui sont sur les routes. Parce que hier, il y avait énormément de monde. Mmh. Des gens, énormément de monde. Je crois que c'est son président a dit qu'il ne pensait pas qu'il y aurait eu autant de monde. Et par contre, je peux me permettre de dire un truc,
oui.
Philippe. Je suis très sévère. Je pense qu'il est c'est inutile de siffler.
Oui, sur les bords des routes. Ok.
Non, c'est inutile de siffler. Comment il s'appelle déjà?
Christopher Froome, c'est ça.
Oui. Christopher Froome. J'ai entendu des violents sifflets. Mm-hmm. Moi, je pense que les gens peuvent encourager leur coureurs, mais bon, on pense qu'on veut, mais voilà. Je voudrais que les gens se calment au niveau de ça, par contre. Par contre, le reste est parfait, il fait beau.
Oui, et puis en plus, Christopher Froome, il est anglais. Alors imaginez s'il y a une finale France-Angleterre.
Ah oui, c'est vrai.
Eh oui.
Ah oui, ça c'est, j'y avais pas pensé, j'avais pensé.
Eh oui.
Hein. Ah oui.
Très bien. Merci Simon, en tout cas. Bon Tour de France. Merci de nous avoir appelés. Hein. Et puis... bon mois de juillet.
À très
bien. Merci.
À très bientôt, Philippe.
Merci en tout cas. Voilà pour cette partie vélo. On va saluer notre ch'ti, notre ami Francis. Salut Francis.
Oui, bonjour.
Alors
bonjour,
ce mondial, l'équipe favorite à Francis, la Suisse, éliminée dès les huitièmes, à sa place.
J'avais dit que les France revenaient bien aussi. Hein.
Allez, la pub, la musique, et maintenant on passe en configuration mondiale. On y va.
DMP Doc des Matériaux du Perret, votre spécialiste des matériaux de construction à votre service depuis 1996. Professionnel et particulier, DMP est distributeur et storiste des grandes marques pour tous vos matériaux, le bois au détail, le métal et l'outillage. DMP, c'est le conseil, la disponibilité et la livraison toute quantité. DMP Doc des Matériaux du Perret, 10 rue Roseau au Perret en Yvelines. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à midi et de 13h30 à 18h, ainsi que le samedi de 8h à midi. DMP Doc des Matériaux du Perret, 01 30 46 30 97.
Il n'y avait plus cette petite flamme entre nous. Je le trouvais vieilli, terne, ennuyeux. Bref, je pouvais plus le voir. Alors je l'ai remplacé. Et celui-là, il a vraiment tout ce qu'il faut. Brillant, classe. Je ne me lasse pas de le regarder.
Plafond fissuré, vieilli, peinturé, caillé. Avec Creative Design, le spécialiste du plafond tendu, changez pour un plafond séduisant. Mat, brillant ou satiné, Creative Design pose votre nouveau plafond dans la journée. Sans poussière et sans odeur.
Une œuvre d'art.
Rendez-vous sur creativedesign.fr 01 58 88 21 20. Brifo Électricité, entreprise familiale depuis 1981, est votre spécialiste dans les Yvelines pour tous vos travaux électriques. Création et rénovation chez les particuliers comme les professionnels. Nous vous proposons également l'installation d'interphones, de vidéosurveillance et de détecteurs incendie. Brifo Électricité motorise vos portails, vos portes de garage et assure l'installation et la gestion de votre chauffage électrique. Votre satisfaction est aussi la nôtre. Devis gratuit, dépannage rapide. Informations et réservations au 01 30 46 11 56 ou sur notre site brifo-électricité.com.
Dimanche, 10h-11h, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Allez, en configuration mondiale, donc on va revenir sur tous les matchs donc, qu'on a vus depuis la semaine dernière. On s'était quitté, Arnaud avait pronostiqué la victoire de la Russie contre l'Espagne. Bon, il n'y a pas eu match et pourtant les Russes se sont imposés. Un partout après prolongation, 4-3 au tir au but. L'Espagne très décevante, hein, messieurs.
Oui, enfin, voilà. on savait que, enfin, beaucoup encensaient l'Espagne comme beaucoup d'autres équipes. Oui, mais c'est de l'encensement habituel, comme on encensait l'Allemagne, comme on encensait l'Argentine. Voilà, un moment quand on tombe sur des équipes, alors pour peu qu'ils soient dans un mauvais jour, une équipe un peu plus rugueuse, qu'on veut un peu plus. Voilà, on a le résultat.
C'est vrai que quand à l'ouverture de ce mondial, quand on a vu Espagne-Portugal, on aurait pu croire penser que l'Espagne allait aller plus loin, parce que c'est vrai que lors du premier match, ils avaient quand même produit du jeu, l'Espagne. Et ensuite, au lieu de monter en puissance, je pense qu'ils ont plutôt fait l'inverse. Ils ont été éliminés au pénalty par la Russie, donc.
Oui, c'est surtout qu'ils ont eu la possession de balle sans avoir d'occasion.
Voilà, ils ont montré du jeu, c'est tout.
Voilà.
Je suis pas trop d'accord. Enfin, sur le premier match, on voyait déjà les lacunes de l'Espagne.
Ils en ont
avec Piqué qui est complètement hors du coup. Et en fait, la différence, c'est qu'avant, il y avait des casseurs de ligne. Pour jouer ce jeu, ils avaient des casseurs de ligne comme Xavi et Iniesta, le Iniesta d'il y a 4 ans. Et aujourd'hui, ces joueurs-là, ils sont plus là. C'est plus Busquets qui casse les lignes, c'est plus Coquet. Et en fait, ce jeu-là, il est bien, mais avec des joueurs adaptés. Et on a bien vu qu'ils ont eu la position un tir cadré pour la Russie.
Est-ce que ça peut s'expliquer par la perte de leur entraîneur une semaine avant le début du mondial? Je sais pas.
Moi, je pense que je pense qu'on est un peu dur quand même avec l'Espagne. Parce que je rappellerai quand même que dans cette Coupe du Monde, il y a une seule équipe qui a battu la Russie, c'est l'Uruguay. 3-0, 3 matchs de poule.
Il n'y a pas eu photo.
Là, il avait fait tourner, je crois qu'il avait fait tourner quand même un petit peu le sélectionneur russe. Sinon, personne n'arrive à battre la Russie. Donc, faut quand même aussi remettre que le Portugal, effectivement, je suis d'accord, ils avaient des gros points faibles, notamment inattendu de Réad contre le Portugal. Sinon, ils battaient aussi le Portugal. Il n'y avait pas photo, quoi. Donc, on est un peu dur. Et contrairement à ce que vous dites, je pense que le fait d'avoir changé de notre ami Christian Jean-Pierre tout à l'heure, là, quand on parlait entre nous de commentateurs, il l'avait dit dès le premier match. Il avait dit, je suis sûr que quand on va arriver dans les matchs à élimination directe, à un moment donné, ça va avoir son poids de pas avoir le type qui a fait toute la preuve, qui a bâti le groupe. Il ne faut pas oublier que Hierro, il a effectivement repris 3 jours avant. Mais ce qui était incroyable, c'est que Hierro, c'est, je crois, une des premières fois qu'un sélectionneur fait une Coupe du Monde avec un groupe de 23 qu'il n'a pas choisi.
Stéphane, excuse-moi, tu fais le bilan. T'es l'Espagne, tu bats pas le Portugal, tu bats l'Iran à l'arraché, tu fais match nul à la dernière seconde contre le Maroc où tu profites d'une erreur d'arbitrage, tu te fais sortir par la Russie au tir au but.
Pour une fois, je suis d'accord avec toi.
Tu fais un match chez 1300 passes, t'es pas capable d'en mettre un, sauf sur un fait de jeu, sur un but contre son camp où il y a à moitié faute. L'Espagne est dehors, franchement, c'est mérité.
La Russie mérite. T'as pas de gardien qui est pas au niveau.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Elle est dehors, c'est mérité. Je dis juste que faut pas être. Bon, je pense qu'il faut pas être trop dur. Avec l'Espagne, parce que elle avait montré des belles choses quand même contre le Portugal. Effectivement, comme tu dis, Benjamin, le gardien était pas au niveau sur cette compétition. Mais sinon, je pense que l'équipe d'Espagne, elle a pas forcément, je pense qu'elle mérite mieux que ce qu'on pense.
Elle tripote bien.
1300 passes pour faire un partout contre la Russie.
Elle tripote bien.
Comme ça.
C'est quand même. Non, tu peux pas dire ça. C'est son jeu. Le résultat, elle fait un partout contre la Russie. C'est grave, d'accord. Mais 1300 passes, c'est son jeu.
Mais 1300 passes pour marquer sur un coup de pied arrêté.
C'est le jeu de l'Espagne.
Justement, est-ce que ce jeu de passe, c'est pas arrivé à son bout? Parce que franchement, le tiki-taka du Barça de la grande époque.
C'est par rapport aux joueurs.
Mais
ils avaient les joueurs pour
développer. Oui, tu disais ça tout à l'heure, mais ils ont quand même Isco pour casser les lignes. Et même avec Isco, ça passe pas.
Mais le problème de l'Espagne.
Est-ce qu'on n'est pas arrivé à. Voilà, est-ce que c'est peut-être plus le jeu adapté? Parce que maintenant, les défenses sont très regroupées.
Tout à fait.
On dirait des matchs de handball où c'est de l'attaque-défense. Et à voir, en plus, c'est vraiment très ennuyé. Donc moi, je pense que.
C'était une purge.
Ouais, voilà. Est-ce que Lopetegui va peut-être amener un nouveau souffle, Hierro va peut-être amener quelque chose plus tard.
Il reste pas. Ça va être Mitchell apparemment.
Oui,
le problème c'est que vous parlez des Espagnols, mais il faut parler des Russes. Moi la semaine dernière, je vous ai dit un Russe qui est pas mort.
On l'a vu encore hier soir.
L'Espagne,
ils sont cuits, mais ils se battent jusqu'au bout.
Ça, c'est dans l'histoire.
L'Espagne avait un maître à jouer qui était Iniesta, et là, il est peut-être un peu en déclin, il est un peu en fin de carrière. Et donc, est-ce que ça peut expliquer aussi les déboires de l'Espagne?
Oui, c'est la fin d'un cycle. Allez, Ça, c'était la purge du dimanche après-midi, puis il y a eu la purge du ah ouais. dimanche soir. Croatie-Danemark, un partout, victoire donc des Croates, 3-2.
Quel match pendant 4 minutes Quel match
oui, c'est tout.
Quel match pendant 4 minutes au début,
il y a eu
quel
quand
match
même
pendant 5 minutes à la fin de la prolongation et les tirs au but.
Il y a quand même le bonheur total de voir que le Danemark ne s'est pas qualifié.
Heureusement, ah oui, je suis d'accord avec toi,
Danemark se qualifie.
Ah oui, non, mais c'est fou.
C'est quand même l'équipe qui n'a
la négation du
premier match, qui n'a rien montré en matière de foot.
Oui, parce que fait c'est Kasper Schmeichel quand même.
Est-ce que la satisfaction pour moi, c'est quand même d'attendre que le Danemark joue contre la Croatie pour s'apercevoir que c'est une équipe de merde, alors que contre la France, non, c'est les Français qui ne savaient pas jouer.
On l'avait vu avant.
France-Danemark.
Putain,
je suis d'accord avec toi, Stéphane.
On a dit que les Français, ils ne savaient pas jouer au ballon.
Je pensais qu'ils passeraient par les Danois.
Bibi, le Brésil a battu le Mexique 2-0, comme prévu.
Oui, oui, de toute façon, alors.
Même s'il y a une belle résistance quand même des Mexicains, on fait une bonne première partie.
Sur un match où tout peut se faire. Moi, je voyais
le Brésil qui se libère avec Fernandinho qui a la 88e.
Je voyais le Mexique capable de réaliser quelque chose parce que je connaissais un peu les limites des Brésiliens.
Le deuxième,
c'est ça. Ils se sont libérés définitivement à 2-0. Ouais, okay. Ils pouvaient prendre un contre, ils pouvaient prendre. Ils se sont libérés au niveau du score définitivement à 2-0.
Oui, donc je disais, je voyais le Mexique capable de réaliser quelque chose parce que je connaissais les limites du Brésil. D'ailleurs, on les a vus hier. Bon, le Mexique, sur un match, était capable, et avec ce qu'ils avaient montré depuis le début de la compétition, était largement capable de faire quelque chose contre le Brésil.
Arnaud, 7e fois, je crois qu'ils arrivent au stade des 8e. Ils passent pas 8e. Ou 8e fois. 7e ou 8e fois qu'ils n'arrivent pas à l'au-delà des 8e
Toutes les éditions depuis 1994. Ils n'arrivent pas à l'au-delà.
Ils n'arrivent pas à l'au-delà.
Moi, je suis supporter mexicain sur cette Coupe du Monde. J'ai les boules parce que certes, ça balade pas sur le premier match, mais ça peut gagner 3-4-0. Il y a eu je ne sais pas combien d'occasions ratées en contre.
Bon, ils ont flanché contre les Suédois quand même. Ils ont flanché contre la Suède physiquement.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'en première mi-temps, il y a au moins 3 ou 4 actions de contre pour les Mexicains. Il n'y en a aucune qui va au fond. Donc,
mais ce match-là, justement, excuse-moi de te couper, ce match-là, il est révélateur parce qu'on voit que le Mexique, ils peuvent tirer pendant 2 heures et ils ne marqueront jamais. Et là, on doit s'apercevoir que tout le monde annonçait le Brésil favori. Moi, j'étais pas la semaine dernière, mais on voit déjà les limites de la défense du Brésil, le nombre d'occasions qu'ils concédaient. Enfin, moi, j'avais vu déjà les limites de la défense.
Parce que ça joue en contre. Et ce jeu de contre et la fragilité en contre du Brésil, on l'a vu avant-hier contre la Belgique.
Depuis le début.
Oui, moi, je suis d'accord.
Depuis le premier match.
Enfin, le Brésil, qui s'est imposé, somme toute, assez facilement, notamment sur sa deuxième mi-temps, même s'ils ont marqué leur deuxième but. Qu'à la 88e, Belgique-Japon, fabuleux match, 3-2. 3-2, le Japon qui mène 2-0. Ça oblige Belgique à réagir.
Deschamps va s'appuyer
dans la réaction.
Oui, tout à fait, comme quoi
dans la réaction.
On peut c'est une Coupe du Monde, on peut en parler sur chaque match, je pense qu'on peut en parler pendant une heure et demie. Selon le principe du verre à moitié vide et le verre à moitié plein, on peut en parler pendant une heure et demie. Effectivement, le Japon a failli sortir la Belgique, quoi, mener 2-0 à la 69e minute, le Japon mène 2-0. Et il faut 20 minutes de folie des Belges et presque un miracle sur la dernière seconde du match pour que les Belges passent et se retrouvent aujourd'hui. Potentiellement possible vainqueur de la Coupe du Monde. Donc on pourra en parler pendant des heures. Est-ce que s'ils reviennent pas, est-ce que ça, on serait pas là en train de dire c'est l'échec de la Belgique, c'est la fin d'une génération, la plus belle génération du football belge qui est en train de finir, machin et tout. Donc c'est pour ça que c'est incroyable et qu'il faut pas. Et c'est pour ça que je reviens. Effectivement, je suis d'accord avec toi, Arnaud, sur la succession des mauvais matchs pour l'Espagne. Il y a même quasiment jamais eu un bon match, si ce n'est contre le Portugal. Moi, je continue à le dire, mais pour toutes les équipes, pareil pour le Brésil, on peut dire effectivement on avait vu ça, et puis sur l'Uruguay on avait vu ça, mais ça, l'Argentine ci, mais bon voilà quoi, les équipes.
Mais sur le match de Belgique-Japon, on s'aperçoit encore l'importance du gardien, Kawagashi. S'il n'y a pas Kawagashi dans le but, la Belgique ne revient pas.
Si
pas.
Ça se trouve, exactement.
Et aujourd'hui les 4 demi-finalistes, il y a 4 grands gardiens.
Ah oui, exactement.
Parce que le gardien anglais, on n'en parle pas trop, mais si vous avez vu encore le match hier.
Il y a 4 grands gardiens sur les 4 équipes qui restent, c'est 4 très bons gardiens. Bon, Suède qui bat la Suisse 1-0, Francis, la Suisse s'arrête là.
Horreur.
Oui, malheureusement, la Suisse s'arrête là, mais enfin, bon, c'est un peu pénible tout de même.
Ah, bah oui, on s'y attendait un peu. On a évité les tirs au but, mais au moins, quand même. Bon, autre match purge, Colombie-Angleterre, un partout après prolongation. 4-3 au tir au but, les Colombiens se sont réveillés un peu tard.
Il y a eu du sang sur ce match-là, franchement.
Ouais, pas beau comme match.
Bah, ça tapait dans tous les sens, l'arbitre a été dépassé, il était clairement.
Oui, en plus.
Voilà, après. J'ai été très étonné depuis le début de la compétition. Je tape un petit peu sur le gardien anglais. Franchement, entre ce match-là et le match d'hier, il m'a fait mentir. Donc bravo à lui. Et pour la. En demi-finale, il peut être déterminant pour son équipe parce que je vois bien un match qui peut durer encore contre les Croates. Donc franchement, bravo à lui, il a fait des sacrés arrêts.
Oui. Une fois que le gardien anglais n'est pas décrié sur un tournoi majeur.
Très jeune.
La Colombie, décevante, hein, messieurs. Oui. Très décevante.
Voilà, il manquait à Ramos.
N'oublions pas qu'il leur manquait leur large, comme Falcao quand même, et pas au niveau du tout. Il leur manquait quand même leur meilleur joueur, de la tête et des épaules.
Falcao, c'est qu'il n'est pas au niveau, c'est qu'il est tout seul.
Il n'est pas non plus très bon.
Ouais, mais Quintero, c'est pas le même niveau que Ramos.
Non, mais oui, je suis bien d'accord. Moi, la vie sur Falcao est une chose, mais surtout. Sans Ramos.
Ouais, c'est comme l'Uruguay, hein, avec sans Cavani.
Oui,
hein.
C'est sûr que c'est pas pareil. Bah justement, tiens, on y arrive.
L'équipe de France, en
c'est le premier quart de finale. On a brossé les. Exactement. On a brossé les huitièmes, on y arrive, 2-0. On s'attendait à un match compliqué, puis finalement l'équipe de France l'a très bien maîtrisé. 2-0.
Donc moi j'avais passé une très bonne après-midi à Rondy.
Bah comme tout le monde, hein.
Bon. Non mais là j'étais dans un bar.
Quand l'équipe de France gagne.
Je regardais la télé avec deux copains.
Ah voilà.
À Rambouillet, voilà.
Ouais.
Mais j'ai jamais tremblé.
Non, mais comme beaucoup.
Dès l'entame, j'ai jamais tremblé. J'y ai cru du début à la fin et.
Bon, oui, pour l'histoire, c'est ce
voilà. On sentait bien que l'équipe de France allait prendre le dessus. Hein,
sans l'équipe qui marquerait la première, elle
voilà, c'est ça.
Un avantage important quand
oui,
même.
Oui, hein. On a vu que sans Cavani, l'Uruguay n'est plus le même Uruguay. Bon, est-ce que après c'est un effet psychologique, j'en sais rien. C'est vrai que il a battu quand même pas mal de boules. Il venait même en défense et tout. Oui. Mais c'est vrai que le mur de Berlin a sauté et facilement même.
Ouais, mais facilement, on peut dire encore une fois parce qu'il n'y avait pas de gardien. Oui. Parce qu'au final, même si on était en maîtrise à ce moment-là, on avait l'impression qu'il reviendrait. Jamais, sans oublier l'arrêt de Lloris juste avant.
L'arrêt de Lloris, ça tourne les matchs.
Au final, Mislera, il nous facilite la tâche. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que pour la petite histoire, il y a 4 ans, Varane, c'était le fautif
oui.
sur le.
Oui, sur le coup de
tête.
On a quand même vu un Suarez inexistant. Sans son compère d'attaque Cavani.
Étape depuis le début, et Mtiti qui l'ont vraiment puissant.
Je me rappelle contre le Portugal, c'était des grands ballons en avant à eux deux. Ils sautaient toute la défense et tout le milieu. Et là, sans Cavani, Suarez,
l'équipe de France a contrôlé son match comme elle le fait depuis le début de la compétition. Oui. Elle contrôle
et c'est bien que Varane est marqué.
Et je crois que qu'il y a eu Cavani, là il n'y avait pas Cavani, c'est tout.
Ça a changé la donne quand même.
Non, ça aurait peut-être été plus compliqué, mais ça aurait été géré quand même.
Parce que effectivement, rappelez-vous quand même que avant ce match-là, tout le monde mettait en avant. On est d'accord, il y avait Cavani, mais on n'en parlait pas non plus tant que ça de Cavani. Ce qu'on parlait surtout. C'était de la défense.
Ouais.
Je me rappelle de conversations avec Arnaud. On va voir comment ça va être quand Mbappé il va être face à Godin. On va voir comment ça va faire avec.
Quand j'ai dit que ça serait qu'une formalité,
Mbappé les a fait craquer. Le Laxalt, il l'a fait craquer pendant 90
exactement.
Minutes.
Exactement. Si vous voulez, effectivement, c'est pour ça que après le match, avant le match, je pensais exactement comme ça. S'il n'y a pas Cavani, c'est bon pour nous parce que ça ne va pas être le même match. Là, du coup, on est archi bien. Mais après le match, je me dis quand même aussi, avec Cavani, ça aurait finalement rien changé.
Mais parce comme le dit Bibi, si tu veux, c'est tout, ça se voit, l'équipe de France, tu vois, elle contrôle. Et Didier Deschamps, il a amené sa patte là-dessus. Ça vit bien dans le groupe, ils rigolent tous ensemble tout le temps, ça se voit.
Ça
rappelle un peu 98,
voilà,
si tu veux.
Ça veut pas dire pour autant
c'est très, très important.
Du monde, forcément,
elle
a ça depuis le début. Et moi, ça, je le sens depuis le début. C'est cet esprit d'équipe, voilà, c'est tout. Après, ils gèrent leur match, ils contrôlent, et c'est très bien, quoi.
Ouais.
Et à aucun moment j'ai tremblé.
Il n'y a plus trop de posts sur internet sur Benzema qui devrait être en équipe de France.
Heureusement, c'est.
Non, mais c'est les bourricots quand on voit les trucs comme ça.
Alors, tiens, justement, Stéphane, certains critiquent le foot en disant que ça coûte cher, l'équipe de France coûte cher. Au contraire, Bob, notamment, c'est complètement faux.
Oui, effectivement,
faut le dire.
On en parlait, il y a une mise au point juste à faire. C'est que si on veut aller prendre les grands phrases, on va dire que la Coupe du Monde, c'est un bonheur gratuit pour nous.
Il y a même des gens qui parlent de foot alors qu'ils n'en parlent jamais.
Exactement. Et c'était on en parlait ensemble, la semaine dernière, je faisais mes courses au supermarché, j'envoyais un monsieur fier de lui, il a sur internet qui expliquait à tous les gens qui s'emportaient, qui disaient l'équipe de France, c'est super, qui disaient ça c'est des millionnaires effectivement et qui nous coûtent du pognon. Alors faut savoir que les joueurs, en tout cas de l'équipe de France et même les autres, mais ne coûtent pas un centime aux contribuables. Pour vous dire, par exemple, la France est en demi-finale de la Coupe du Monde. La Fédération française de foot va toucher, si elle perd la demi-finale, 18 millions 600 000 euros de la part de la FIFA, et si elle la gagne, 20 millions, quelque chose comme 20 millions, quoi. Donc c'est plus de 20 millions. Et c'est cette somme-là qui est reversée aux joueurs, en les primes de match qu'ils ont. Un joueur qui gagne la Coupe du Monde a peut-être gagné 300 000 euros par joueur. Et c'est cette somme-là qui est répartie. Outre, pour terminer là-dessus, la Nike, par exemple, l'équipementier de l'équipe de France, verse 50 millions d'euros par an à l'équipe de France. Pour ce qui concerne tous ces autres frais, tous les frais qu'il y a. Donc, les contribuables, hein, on peut se rassurer, ne paient pas un centime. Voilà. On peut dire pareil pour les clubs, si on veut, juste pour faire la comparaison par rapport aux grands clubs, mettons un joueur comme Neymar, s'il gagne, mettons, 1 million d'euros par mois, le
PSG. Il paye déjà des impôts.
En fait, c'est plus que ça, mais pareil, mais pour ceux qui feront, le PSG va verser, par exemple, 400 000 euros de charges patronales à l'État. Par mois, donc sur l'année avec un effectif comme par exemple, je vous laisse calculer combien un club comment les Qataris, c'est une bénédiction pour l'État français en fait, qui verse des millions tous les ans. Et c'est pareil pour l'OM qui avec ses joueurs, à part Monaco, c'est pareil pour tout le monde, quoi. Voilà. Juste dire ça, quoi. Les joueurs de foot, effectivement, ce sont, comme l'a dit notre ami Lapix, des millionnaires qui courent après un ballon, en tout cas pour ceux qui courent. Donc sur l'effet, sur la phrase même, c'est pas faux, mais en tout cas, bah oui, mais en tout cas, nous, c'est pas notre argent qui compte.
Ouais. Voilà, il fallait le dire. La Belgique, donc, a battu le Brésil, 2-1, match fabuleux.
Oui.
Hein, donc du coup, on jouera les Belges en demi-finale.
C'est une bonne chose que les Belges soient là, ça va changer un peu, et puis au moins on va avoir droit à un beau match.
Donc Neymar qui s'arrête après Ronaldo, et puis Messi, messieurs.
Ouais, c'était attendu.
On peut dire tout de même, en faisant la synthèse des quarts de finale, c'est que le foot est tout de même un jeu d'équipe et que,
absolument,
on a beau dire l'Argentine avec Messi,
oui.
Le
c'est l'équipe qui
Neymar,
va être la plus collective qui va gagner,
ouais, exactement, ouais. Et ils sont tous les deux out. Hier, la Croatie avec Modric, c'était limite. Donc voilà, au moins un jeu d'équipe qui se passe bien, au moins pour les Français et pour certains autres.
Après, on voit aussi, surtout l'importance d'un grand gardien. Parce que Thibaut Courtois, il a fait, c'est l'homme du match face au Brésil.
Oui,
il faut savoir que le Brésil a tiré, je crois, 28 fois. Il a dû faire 8 parades décisives. Sans Thibaut Courtois, on gérerait le Brésil, je pense.
Effectivement. Donc, dans l'après-midi, pareil, grand gardien avec l'Angleterre qui bat la Suède 2-0. Des Suédois très décevants, hein, qui n'ont rien tenté.
Oui, bah, c'est une découverte. Ce gardien, Jordan Pickford, en plus, il est très jeune. C'est rare de. Bon, on en a parlé tout à l'heure.
Mais
voilà, la Suède, ouais, c'est à l'image du Danemark,
oui,
en fait.
Oui,
hein,
oui,
c'est,
les Anglais,
ils jouent avec leurs moyens.
Ils ont fait un bon match contre le Mexique, contre l'Allemagne aussi.
C'est vrai.
Et les Anglais, depuis la création du football, jouent toujours la même façon.
Ouais.
On déborde sur les ailes, on centre, on met de la tête.
Quand on déborde. Des fois,
on déborde. Là, ils sont dans une période où ils arrivent à déborder. Mais bon, c'est triste à dire, mais le football anglais, c'est toujours comme ça.
C'est vrai qu'ils ont des bons latéraux.
C'est la première demi-finale depuis 1990.
Oui. Mais ils ont terminé 4e en 90.
Ce
ouais,
qui est un peu dommage, c'est voilà, de retrouver une équipe qui joue de cette façon et qui est en demi-finale. C'est un peu regrettable.
Bah,
au niveau de la Belgique et la consistance du jeu français, on se dit, bah oui, forcément, France-Belgique, c'est une finale avant l'être. Malgré tout, il restera un match à jouer.
Voilà. Et puis, dernier match, c'était hier soir, 2-2 après prolongation, 4-3 au tir au but, une nouvelle fois pour la Croatie qui, à nouveau, se qualifie au tir au but.
C'est cruel pour la Russie. Les mecs, ils ont été nuls au tir au but. Il y a deux tirs où ils font absolument n'importe quoi, mais c'est cruel pour eux, franchement.
Ouais,
donc voilà, ils ont.
Est-ce qu'il valait quand même pas mieux sur l'ensemble du foot,
oui,
que la Croatie passe
pour l'ensemble
de la compétition?
Mais la Russie a eu du cœur, elle a réussi à revenir à 5 minutes de
ça
la fin. Donc,
ouais, mais bon, voilà. Je pense que le quart de finale pour la Russie, c'est le top maximum.
Oui, déjà, c'est bien qu'il soit en quart.
Hein. C'est quasiment miraculeux.
Il est au bout du rouleau déjà.
Donc bon, peut-être sur le match, si on regarde vraiment parce qu'ils égalisent à 5 minutes de la fin, parce que celui qui égalise, c'est celui qui rate son tir au but. Mais sinon.
Je reviens sur une chose avant que l'émission se termine.
Il y a encore un peu de temps, il y a 10 minutes.
Rappelez-vous des matchs comme ça. Des matchs comme ça avec le pays organisateur qui arrive en prolongation, voire au pénalty. Rappelez-vous, il y a 20, 30 ans, les erreurs d'arbitrage, les favoritismes, etc. On parle pas assez de la vidéo. Je trouve que les arbitres prennent de plus en plus de pouvoir sur les terrains. Ils sont sûrs de
leur
décision.
C'est vrai qu'il y a très peu d'erreurs.
Quand ils sont pas sûrs d'eux, et ça rassure tout le monde, on est dans notre canapé.
Il y a moins de discussions.
Sauf toujours à Colombie.
C'est vrai
qu'on les matchs de foot, on est serein.
C'est vrai qu'on a fait moins appel à la vidéo que lors des phases de premier groupe éliminatoire. C'est vrai. Les arbitres ont été plus sûrs d'eux.
Je suis libéré et je souhaite que ce soit la même chose en Ligue 1. Ça évitera à Neymar, qui s'est calmé sur le dernier match, de se rouler toutes les 30 secondes, Cavani, pareil, parce que là, on va avoir enfin un championnat où il n'y aura pas 16, 25 pénalties dans la saison. pour un club, sans citer le nom. Et donc, au moins, on va avoir l'avantage d'avoir un football, même si le PSG est au-dessus de tout le monde par ses facultés, au moins les petites équipes auront leur chance. Voilà, moi je tiens à signaler que c'est vachement important.
C'est vrai que c'est une réussite, moi je trouve aussi, et ça fait du bien au football.
Il n'y aura même plus de commentaires comme celui qui vient d'être fait, qui diront qu'ils ont des pénalties alors qu'ils ne devraient pas les avoir. Parce que s'ils les ont et qu'il y a la vidéo, c'est qu'ils devaient les avoir.
Voilà. Eh bien écoutez, moi j'ai hâte de voir qu'une chose avec la vidéo, c'est un Saint-Élion cette saison. Donc c'est de la baston, donc maintenant avec la vidéo on va rigoler un petit peu côté lyonnais. Bon, côté lyonnais, je parle côté lyonnais, attention.
Ah oui, tout à fait.
Allez, la
pub. Le s'est organisé. Ouais. De même parce façon, parce que l'arbitre vidéo, il y en a qui, ils sont à 4 ou à 5 hein, dans la cabine. Il ne faut pas que le gars soit tout seul aussi.
Bon, messieurs, on passe à la pub et à la musique, et ensuite on va parler des demi-finales qui arrivent pour cette semaine. On y va.
Bienvenue au Savoyard, 46 rue d'Angivillers à Rambouillet. Depuis 30 ans, le restaurant Le Savoyard propose une cuisine traditionnelle française et aussi des spécialités savoyardes. Le tout fait maison. Alors pour un moment convivial entre amis ou en famille, votre restaurant Le Savoyard vous accueille du mardi au samedi soir. Le Savoyard, 46 rue d'Angivillers. Téléphone 01 34 83 35 77. Particuliers, électriciens, collectivités, entreprises, commerçants, il y a du nouveau à Rambouillet pour toutes vos questions d'éclairage. LED Pro France, c'est un showroom de plusieurs mètres carrés et un magasin proposant une très large gamme d'ampoules, de luminaires, projecteurs, bandeaux LED à des prix imbattables. LED Pro France, votre partenaire lumière, vous conseille et vous accompagne dans tous vos projets neufs et de rénovation d'éclairage. Alors n'hésitez plus. Particuliers, électriciens, collectivités, entreprises, commerçants, rendez-vous dès aujourd'hui voir des éclairages LED de qualité professionnelle à des prix usine. LED Pro France, ZA du Bel Air, 12 rue Pierre Métairie à Rambouillet. 01 30 88 97 54. 01 30 88 97 54 ou sur notre site internet ledpro-france.com.
Vous voulez vendre, acheter un bien sur Offargis, Le Perret ou Vieille Église? Appelez Pierre Burtel, votre agent conseil en immobilier, au 06 43 27 13 08 et bénéficiez des honoraires réduits de l'agence ImmoJuste. Pierre Burtel au 06 43 27 13 08.
Du genre pas de touche, du genre qu'une seule cartouche. Drôle de type, un indien dans.
chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE. Retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport. Avec Philippe Carnu.
Voilà, je voulais simplement vous dire que cette émission, elle sera en podcast, hein, comme toutes celles des semaines précédentes. Ça y est, le webmaster a tout mis donc en place. Sachez aussi qu'on aura des interviews qu'on a ramenées de Moscou, qu'on passera dans notre dernière émission de la semaine prochaine. Et puis que, tiens, j'avais un petit rappel pour dire qu'Alexander Nerev s'est imposé donc à l'Open de France de golf à Saint-Quentin la semaine dernière. Comment ça se présente, France-Belgique et Croatie-Angleterre, pour vous, messieurs? Bientôt la deuxième étoile?
Ah oui, sûr et certain.
Oui.
Non, mais si, sûr et certain, rigolez pas. Ouais. Vous croyez qu'en vos clubs...
Mardi pour l'équipe de France et mercredi pour Croatie, Angleterre.
Moi, je crois cette équipe de France depuis le début. Et puis la Belgique, ça va mettre ça va être plus simple que prévu par rapport aux autres équipes qu'on a rencontrées. Ils vont ouvrir le jeu, ça va être bien. Tout le monde est axé sur Lukaku et Hazard. Mais bon, je vais rester dans la logique de certains. On a une mauvaise équipe de France, mais vous allez voir à la fin.
Stat étonnante, la France en phase d'élimination directe cette année, c'est 6 tirs cadrés, 6 buts. Donc après, face à Courtois, ça risque d'être autre chose. Mais
avec des statistiques. Les dernières statistiques, on n'avait jamais battu l'Uruguay
C'est vrai.
Statistiques, on laisse ça aux autres.
La Belgique prend des buts, mais moi, je vais rester sur ma position. Par exemple, un Hazard contre Pavard, ça me fait flipper. Donc.
Et Mbappé contre toute la défense belge.
Oui, je suis bien d'accord.
Ça te fait flipper ou pas, Mbappé vers Tonguay?
Ça me ferait flipper.
Hazard contre Pavard, ça te fait flipper?
Franchement, ouais.
Ben moi, je demande à voir.
C'est vrai qu'il a été.
Moi, je demande à voir. C'est ça aussi le problème. Le problème, c'est que vous avez des très grands joueurs et vous refusez de voir qu'en face peut y avoir des gamins très jeunes qui jouent une Coupe du Monde, qu'en veulent, qui sont insouciants et qui ont peur de personne. Vous allez voir.
Ça, je suis bien d'accord, mais ce que je dis par là, c'est que ça y est, Pavard a mis un but de fou malade contre l'Argentine.
Depuis le début, je vous tiens ce discours. Tout comme je vous dis, attention, ça sera pas le Brésil, ça sera pas l'Allemagne, ça sera pas l'Espagne, ni le Portugal.
Les équipes Belgique, Croatie, elles sont déjà allées dans le Canada.
Oui, mais toutes les surprises, elles sont arrivées là.
Moi, je le savais pas, tu me l'apprends. Surtout, j'allais te dire, c'est la Juventus, quoi. Les Italiens sont quand même assez calés, on va dire, en termes de défense. Veut recruter Pavard.
Ça y est, il a signé en 2019.
Ce que je dis par là, c'est qu'on a l'insouciance, c'est qu'on a vu une certaine fébrilité défensive de la part de Benjamin Pavard et contre l'Argentine et contre l'Uruguay. C'est arrivé à plusieurs moments.
Excusez-moi, ce que je demande.
Il y aura des buts pour l'équipe de France.
C'est surtout de ne pas nous faire flipper comme la Croatie, comme le Paraguay.
Ah oui, pas de
qui continue comme ça.
Ouais.
À gagner 1 ou 2-0, on s'en fout.
On prendra 2 buts, on en marquera 3.
Mais les pénalties, les prolongations et tout, moi c'est un truc. C'est
la raison qui est de fou.
Ah oui.
Moi j'ai peur de.
Il y a du jeu ouvert.
J'ai très peur de la
Belgique. Non, je pense que la Belgique, c'est quand même la génération que tout le monde attendait. Et enfin, ils sont attendus. Ils sont loupés il y a 2 ans, il y a 4 ans, et là c'est quand même un peu l'apothéose pour eux. Donc si c'est maintenant ou jamais pour eux, et ça peut être aussi leur année.
Il faut pas oublier qu'il y a vraiment un match par rapport à Kevin
De Bruyne. Vous parlez de Lukaku, pour moi Lukaku franchement je me contente de Giroud, parce que Lukaku, il a fait des bonnes choses dans le premier tour, mais on a vu hier, dès qu'il prend le ballon, il sait même pas faire un crochet.
Mais c'est marrant.
Giroud,
il sait pas faire un crochet, il sait à peine faire un contrôle. Lukaku, il sait prendre le ballon, il sait dribbler, il sait accélérer. Il y a un but.
J'ai vu le match de Manchester cette année.
Je sais plus, il y a un but belge, il récupère le ballon.
Arrêtez de taper Giroud, si jamais il marque un but en finale,
Si il fallait rajouter une chose, je pense que se retrouver en demi-finale de Coupe du Monde sans le Brésil, sans l'Allemagne, sans l'Argentine, sans l'Espagne, c'est jamais arrivé, ça arrivera peut-être plus jamais. Donc s'il y a une occasion pour gagner la Coupe du Monde, c'est
n'oubliez pas aussi que Thomas Meunier est absent et que ça peut avoir être important.
Une des grosses erreurs, je pense, Meunier Neymar, ça pouvait pas aller, c'était normal que le Brésil qui passerait pas là, c'était évident, quoi. Et juste une dernière petite chose, depuis 86, les deux équipes étaient en demi-finale, la Belgique et la France, dans deux demi-finales différentes. Et depuis, la France a joué une finale de Coupe du Monde, a gagné une Coupe du Monde.
Très bien. On y croit. Allez les Bleus.
Allez les Bleus. Merci en tout cas. On se retrouve la semaine prochaine pour la finale. Allez les Bleus. Merci à toutes et à tous pour cette émission enflammée. Salut.